Cet épisode, avec sa trame musicale complète, est disponible sur notre site web, lepolymath.ca.
Le Polymath avec Bruno Laberge.
Tous les Québécois ont l'obligation de fréquenter l'école jusqu'à un certain âge. Et à l'école, on apprend particulièrement les matières de base, le français, les mathématiques, la géographie et l'histoire. Et l'histoire du Québec, c'est l'histoire d'un peuple de francophones en Amérique qui a fondé des villages, semé des récoltes et peuplé la Nouvelle-France. On sait que les Français ont perdu leur guerre contre les Anglais. On a entendu parler des deux armées. Mais a-t-on entendu parler de l'histoire derrière l'histoire? Au Polymath, cette semaine, la bataille de la Côte de Beaupré ou la bataille de Saint-Joachim.
On met le cap sur un rêve, mais la traversée est longue. Combien trépasse avant de toucher le nouveau monde? On est breton, normand, irlandais ou peu importe, on se mélange espérant vivre en paix. Grand-maman dit même qu'on a du sang amérindien. Je me demande si on a plus dans nos veines ou sur nos mains. On fait une guerre, on la perd, je me sens trahi. Comme un flot rejeté par sa mère patrie, mes nouveaux maîtres m'exploitent. Je commence à être écœuré, je m'en remets à Dieu, mais entre nous deux, il y a monsieur le curé. Chaque jour, je laboure une...
La guerre de 7 ans qui a eu lieu de 1756 à 1763 est la première guerre d'envergure mondiale. Elle est menée en Europe, en Inde et en Amérique, ainsi qu'en mer. En Amérique du Nord, la Grande-Bretagne et la France, deux grands empires rivaux, luttent pour la suprématie. La Grande-Bretagne veut mettre la main sur le territoire de la Nouvelle-France, et cela passe par le Saint-Laurent. L'expédition des Britanniques débute au printemps 1759, alors que la flotte commandée par Charles Saunders quitte le port de Louisbourg pour remonter le fleuve jusqu'à Québec. Le quart de toute la marine royale britannique y prend part, ainsi que des transporteurs marchands. Cela représente 49 navires de guerre avec 13 500 hommes d'équipage ainsi que 119 vaisseaux marchands opérés par 4 500 matelots et transportant un corps de débarquement de 8 500 soldats réguliers. Le commandant français apprend la nouvelle d'une expédition contre Québec via le Saint-Laurent. Montcalm, qui est à Montréal, demande la permission à Vaudreuil de partir immédiatement pour Québec afin de voir à la défense de la capitale. Dès son arrivée à Québec, il commence à diriger les travaux nécessaires à sa défense. Le 24 mai, quelques 300 marins commencent à creuser des retranchements sur la rive ouest de la rivière Saint-Charles. On fabrique aussi une chaîne de ports pour attacher ensemble des mâts de navires. La chaîne est installée en travers de la rivière Saint-Charles pour empêcher toute embarcation ennemie d'y entrer. Une ligne de retranchement est également creusée du sceau de Montmorency jusqu'au mur de la ville. Vaudreuil ordonne la mobilisation de toute la milice du pays et l'évacuation des régions voisines de Québec, l'île d'Orléans, la côte du Sud et la côte de Beauport. Les habitants des environs arrivent à Québec avec leurs enfants, leurs objets de valeur et même leur bétail. Les hommes incorporent leurs milices respectives. En effet, c'est la loi du pays. Tous les hommes valides de 16 ans à 60 ans font partie de la compagnie de milices de leur paroisse. Mais parfois, parmi les miliciens, il y a des vieillards de 70 ans et des garçons aussi jeunes que 15 ans. Environ 15 000 combattants se portent à la défense d'un pays de tout au plus 60 000 colons. Le plan d'évacuation des campagnes des environs de Québec ne peut finalement pas être complété à temps. Alors les habitants, hors de la grande ville, restent cachés dans les bois, fusils en main.
Thank you. Je suis un fier fils de la fleur de lys. Je chante ce monde qui m'enchante comme Félix. Là, des idées laissées fixes qui enlisent et des indécis d'ici qui s'englissent. Québec, bastion francophone en Amérique du Nord, des progressistes passionnés.
Les Britanniques réussissent à mettre la main sur des cartes de navigation françaises et aussi à soutirer de l'information à des marins français faits prisonniers. Malgré tout, la marine britannique se montre prudente et méthodique. Elle fait sonder le fleuve au fur et à mesure qu'elle progresse, vérifiant ainsi l'exactitude des informations qu'elle a obtenues de l'ennemi. Le 26 juin, l'armada britannique atteint l'île d'Orléans, devant Québec, sans grande difficulté. Le 27 juin, le général Wolfe fait débarquer une partie de ses soldats à Saint-Laurent sur l'île d'Orléans. Wolfe et une partie des soldats marchent immédiatement 10 km en direction de la pointe ouest, là où il est possible d'apercevoir la longue ligne de retranchement français qui part de la rivière Montmorency, juste en face, et se rend vers l'ouest, jusqu'à la ville de Québec. Le jour du débarquement, Wolfe fait diffuser un manifeste adressé à la population canadienne en vue de la terroriser. Il annonce des représailles si les habitants prennent directement ou indirectement part à la dispute entre les deux couronnes. S'ils prennent les armes, ils doivent s'attendre à souffrir tout ce que la guerre a de plus cruel. Des copies du manifeste sont placardées sur les portes de diverses églises de la région dans les jours qui suivent. Au début du mois d'août, un peu plus d'un mois après la diffusion de son premier manifeste, Wolfe met à exécution sa menace de représailles en ordonnant la destruction des habitations et des établissements dans la baie Saint-Paul. Le 6 août, Gorham et ses hommes s'embarquent pour le village de baie Saint-Paul, qu'ils incendient le 9 août. L'expédition procède ensuite en direction de la Malbaie, à 10 lieues à l'est, et ravage tout sur son passage. Traversant sur la côte du sud, lui et ses rangers détruisent une partie de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Porcassière, puis s'en retournent à leur campement. Le 15 août, Wolfe annonce que toutes les maisons et les étables entre la rivière Etchemin et la rivière Chaudière peuvent être brûlées à la première opportunité. À peine revenus à leur camp, les hommes de Gorham repartent donc pour une autre expédition. La destruction des villages ne se fait pas sans résistance. Les Rangers rencontrent plusieurs groupes de Canadiens et d'Amérindiens qui défendent leurs propriétés et celles de leurs voisins et parents à coups de fusil.
Québec, c'est nous, gens d'ici, gens de cœur, pays unique du nord de l'Amérique.
Dans l'histoire de la Nouvelle-France, le combat de Saint-Joachin est un épisode peu connu. Ce village se trouve près de Québec, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, en face du cap nord-est de l'île d'Orléans. Les navires britanniques sont bien visibles depuis Saint-Joachin. Aussi, le curé du village, l'abbé de Portneuf, s'empresse d'envoyer 3 lettres au gouverneur de la Nouvelle-France, Rigaud de Vaudreuil, pour l'informer des mouvements de la flotte anglaise. Le gouverneur donne au curé la recommandation suivante. Que les habitants se réunissent, qu'ils soient toujours surveillants et en état d'opposer la plus vive résistance aux Anglais. Le curé organise alors la bataille avec les citoyens. Dans certaines sources, on affirme que le curé réunit sous son commandement jusqu'à 150 partisans. D'autres sources parlent d'environ 50 de participants tout au plus. Le capitaine Montgomery et 168 soldats anglais débarquent à Saint-Joachin le 17 août 1759. Le curé de Saint-Joachin aperçoit le détachement des Rangers et d'Écossais débarqués sur les grèves, en arrière du petit cap. Il envoie un habitant porter au commandant un petit billet dans lequel il l'invite à dîner avec ses officiers. Il l'assure que ceux qui lui feront cet honneur pourront s'en retourner en toute sécurité. Il ajoute que si le commandant anglais combat pour son roi et pour la gloire, lui-même ne peut être blâmé de combattre pour ses pauvres paroissiens et pour la défense de son pays. L'officier s'excuse de ne pouvoir accepter sa politesse et ajoute qu'il se flatte de pouvoir bientôt avoir le plaisir d'inviter le brave ecclésiastique et ses adhérents dans le camp anglais. En débarquant, les hommes de Wolfe se dirigent sur l'église de Saint-Joachim, s'emparent du presbytère, se barricadent et y demeurent jusqu'au 23 août. Ensuite, les Britanniques décident d'attaquer. Les habitants rassemblés dans le voisinage observent les mouvements des ennemis. Lorsqu'ils les voient détruire et brûler le presbytère et l'église, ils comprennent que leurs habitations sont menacées du même sort et sont déterminés à défendre leurs propriétés. Munis de fusils de chasse, ils s'embusquent sur le penchant d'un coteau couvert de bois. Les quelques 200 habitants aptes à défendre leur village défendent vaillamment leur poste, mais les Anglais, avec un canon, forcent les habitants à sortir des maisons où ils sont barricadés. Menacés d'être cernés de toutes parts, ils doivent abandonner leur village et se réfugier dans les bois. Les Anglais pillent et incendient tout le village, l'église, le presbytère, les maisons des villageois, la petite et la grande ferme, même les clôtures et les moissons, tout est consumé par le feu. Le curé René de Portneuf, qui n'a pas voulu abandonner ses paroissiens, est gravement blessé. Il réussit cependant à fuir avec eux. Comme il est épuisé, dû à ses blessures, et qu'il perd beaucoup de sang, il tombe, et les Anglais le rattrapent, et le tuent à coups de sabre. D'autres hommes sont faits prisonniers, tués et scalpés. Ils sont très mutilés. On a même peine à reconnaître le cadavre de l'ecclésiastique. Les pauvres habitants sont consternés en voyant leur curé gisant dans son sang. Comme ils ont encore raison de craindre les Anglais, ils se hâtent d'enterrer M. de Portneuf à l'endroit où il est mort. 3 jours plus tard, le 26, les Anglais quittent la paroisse de Sainte-Anne-de-Beaupré, sans avoir pu incendier l'église, malgré leurs efforts réitérés. On y transporte le corps de M. de Portneuf, qui est inhumé sans cercueil, près des balustres, sous le cœur. Difficile de décrire dans quel état se trouvent les villages le long du fleuve et la situation pénible des habitants. Toute la côte de Beaupré et l'île d'Orléans sont détruites avant la fin du siège. Les granges, les maisons des habitants, les presbytères sont incendiés. Les bestiaux sont enlevés et une partie des animaux a déjà été réquisitionnée pour nourrir les soldats dans la ville de Québec. Le pauvre habitant qui retourne sur sa terre avec sa femme et ses enfants est obligé de s'improviser une habitation. Les récoltes sont brûlées. Les animaux ne sont plus. Il ne reste plus qu'à rebâtir. C'est ce que font courageusement les habitants de Saint-Joachim. L'église incendiée est inutilisable. On répare le presbytère et on y fait des offices religieux jusqu'en 1766. Entre-temps, le siège de Québec se continue et culmine lors de la bataille des Plaines d'Abraham, le 13 septembre 1759. Et les Britanniques gagnent. Cette bataille est une défaite majeure pour les Français. En 1763, la France cède l'ensemble du Canada à la Grande-Bretagne. L'armée britannique est catégorique. Elle prétend que le curé et ses partisans ont attaqué les Anglais et qu'ils ont été tués en réponse à cette agression. S'ils ont été traités avec cruauté et scalpés, c'est parce qu'ils s'étaient déguisés en Indiens. Le rapport des Anglais parle de 30 morts. Les registres de la sépulture contiennent seulement 7 noms de paysans morts au cours de ce combat. Bien des mystères sur cet épisode persistent. À la mi-septembre, le camp britannique rapporta avoir détruit plus de 1400 fermes dans les campagnes québécoises, sur les deux côtés du fleuve Saint-Laurent. Un journal de la Nouvelle-Angleterre, le Boston News Letter, qui en rapportait la nouvelle le 6 décembre, prédisait que l'ennemi mettrait peut-être bien un demi-siècle à s'en remettre.
Mon pays, c'est grand. À sous-terre, c'est froid, c'est seul, c'est long à finir, à mourir. Entendez-vous les vents, pluie, les neiges.
L'histoire derrière l'histoire, c'est celle des habitants du Québec qui se sont battus pour leur territoire et pour leur langue. car au-delà des soldats présents et de la France trop peu présente pour les défendre, le peuple s'est levé pour combattre avec la force de ses convictions, et trop peu d'armes, et trop peu de stratégie. Et Saint-Joachin et son curé en ont fait partie, possiblement une trentaine de morts lors de cette bataille. En comparaison, c'est beaucoup, puisque dans la bataille des plaines d'Abraham, au total, 250 soldats des deux armées ont été tués. La journée des patriotes, le lundi qui précède le 25 mai, vise à souligner l'importance de la lutte des patriotes, de 1837 à 1838. Mais elle permet du même souffle de se souvenir de nos ancêtres, qui se sont battus pour leur pays, lors de différentes batailles, dont celle de Saint-Joachim.
Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com/lepolymath.
Vous pouvez nous écouter en direct le dimanche 11h au 88.3 FM dans la région de Québec ou au ckiafm.org. Vous pouvez aussi nous écouter en tout temps sur votre plateforme de balado favorite. Cherchez aussi le Polymath avec Bruno Laberge sur Facebook ou le barre de soulignement Polymath sur TikTok. Visitez notre page web lepolymath.ca.